Madame la ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Que répondez-vous aux Nations Unies qui parlent d'une soixantaine d'esclaves sexuels au Kasaï et qui disent que les autorités locales n'ont pas donné suite à la transmission d'informations et n'ont pas cherché à les faire libérer?
Écoutez madame, cette affaire, on en parle depuis le début du mois de mai, lorsque l'équipe d'experts internationaux des Nations Unies dépêché dans le Kasaï par le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, m'a fait part de cette situation. J'ai été prise de panique. En ce moment-là, le groupe d'experts parlait de 300 femmes. Vous parlez de 60. Donc, aussitôt, j'en ai informé mon collègue ministre de la Défense qui m'a dit qu'il n'était pas au courant et qu'il allait vérifier pour voir dans quelle mesure les faire libérer. J'en ai également informé le président de la République qui, aussitôt qu'il a appris, a convoqué une réunion de crise. Il m'a demandé d'appeler le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour avoir toutes les précisions afin que l'armée aille libérer ces femmes dans les 72 heures qui suivaient. J'ai rappelé le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. On m'a dit qu'on allait me transmettre tous les détails dont on avait besoin. Jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai jamais eu de suite.
Pourtant, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit qu'il a fourni ces informations non pas en mai, mais que lui, bureau conjoint, c'est-à-dire pas les experts sur le Kasaï, en ont parlé aux autorités dès décembre 2017 et cette situation dure depuis avril 2017.
Vous parlez des autorités provinciales. Moi, je vous dis que nous, au niveau de Kinshasa, j'ai été informée donc par les experts internationaux de l'ONU fin avril, début mai. Jusqu'au moment où je vous parle, personne n'a donné de précisions quant à l'existence de ces femmes séquestrées comme otages sexuels.
Mais il y a une trentaine de rescapés. Pourquoi ne pas les interroger vous-même? Ces femmes donnent des localités.
Vous pouvez imaginer qu'avant d'être ministre, je suis moi-même femme et que donc je ne peux pas rester insensible face à une telle situation et que tout le gouvernement a le devoir de libérer ces femmes. Si elles existaient, je ne suis pas en train de vous dire que lors des atrocités du Kasaï, il n'y a pas eu de violences sexuelles. Il y en a eu beaucoup commises par les terroristes de Kamuina Nsapu, mais il y a également quelques éléments des forces de l'ordre qui se sont rendus coupables des violences sexuelles. Là, on est en train de parler des femmes séquestrées comme otages sexuels. Ces femmes n'existent pas. Au début, on nous a parlé de 300. Après, on nous a parlé de 100. Aujourd'hui, vous parlez de 60. Je repose la même question. Qu'on nous dise où se trouvent ces femmes, on va les libérer. L'ONU est incapable de nous dire où se trouvent ces femmes. La vérité, c'est que il y a eu quelques femmes Luba qui avaient été mariées à quelques hommes Tchokwe. À ma connaissance, il y en avait 3 et qui se sont disputées avec leur mari parce que il y avait des conflits entre les Tchokwe et les Luba. Et sur la route, ces femmes ont croisé les éléments de la MONUSCO. Elles ont relaté ce qui s'est passé. Et la MONUSCO a amplifié cette histoire, madame.
Mais pourquoi ne pas interroger celles qui se présentent comme des victimes? On nous parle d'une trentaine de femmes et de petites filles.
Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que j'ai envoyé des équipes du ministère des Droits Humains au Kasaï, au mois de juin, à Tchikapa et à Kananga. Vous ne savez peut-être pas que moi-même, je suis allée à Kananga où j'ai passé plusieurs jours. Je suis en train de vous dire des choses pour lesquelles j'ai enquêté.
Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas beaucoup de procédures judiciaires à ce stade dans le cadre des différents crimes contre l'humanité et crimes de guerre documentés sur le Kasaï? Il n'y a notamment aucune procédure contre ces milices Banamura qui sont accusées de détenir les otages sexuels dont parle l'ONU. Est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure entre les milices qui sont accusées d'être proches de certaines autorités locales ou certains commandants FRDC et les milices Kamuina Nsapu qui se sont érigées contre l'autorité de l'État?
Par rapport à la sanction, j'estime que toutes les atrocités qui ont été commises au Kasaï ne doivent pas rester impunies. Le président de la République l'avait dit, c'est vrai qu'il faut la réconciliation au Kasaï, mais qu'il n'y aurait pas de vraie réconciliation, qu'il n'y aurait pas de paix sans justice. Certaines personnes avaient déjà commencé à être jugées. Les procès avaient été interrompus à la demande du secrétaire général des Nations Unies, qui voulait que les enquêtes que le gouvernement menait conjointement avec les experts de l'ONU s'achève pour établir les responsabilités afin de permettre qu'il y ait des procès équitables.
Mais votre gouvernement passe son temps à dénoncer les ingérences de la communauté internationale. Est-ce que ce n'est pas en priorité de la responsabilité du gouvernement de mener ces enquêtes et de les faire aboutir?
Bien sûr que c'est de la responsabilité du gouvernement.
Mais 2 ans après, aucune fosse commune à ce jour n'a été ouverte et donc on ne sait toujours pas quelles sont les victimes qui sont dans ces fosses communes.
Madame, les gens sont en train de travailler à Kananga. Vous n'avez pas l'information?
Comment se fait-il qu'il y ait encore des manifestations qui soient réprimées en République démocratique du Congo quand vous aviez annoncé que la mesure de levée générale d'interdiction des manifestations avait été levée, et ça depuis des mois?
Je ne m'explique pas. La mesure a été levée. Je vous le confirme encore une fois que les manifestations peuvent se tenir. Et je n'ai pas besoin de vous préciser que nous sommes en plein processus électoral. Le dépôt de candidature s'achève le 8 août prochain et nous ne concevons pas qu'il y ait campagne électorale sans liberté de manifester. Ceux qui répriment les manifestations publiques doivent être sanctionnés.
Le ministre de la Justice a été assez clair pour dire qu'il n'y aurait pas de libération de nouveaux prisonniers politiques, en tout cas que la centaine dont parlait l'ONU, que les libérations n'étaient pas à l'ordre du jour, et notamment pas Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo ou Eugène Diomi Dongala.
Vous parlez du ministre de la Justice, moi je suis ministre des Droits Humains, madame.
Mais est-ce que cela ne vous inquiète pas de voir que ces mesures de décrispation qui étaient pourtant prévues, que ces mesures ne sont pas remplies? On a vu qu'au Conseil de sécurité, les États membres pointaient justement le fait qu'il y avait encore affaire sur les mesures de décrispation et on est à 5 mois des élections, vous le disiez.
Je ne suis pas ministre de la Justice, je parle des choses qui sont de ma compétence.
Comment vous expliquez que des jeunes comme Carbone Béni et les 4 autres membres de Filimbi aient pu être détenus pendant des mois sans accès à un avocat à l'ANR, à l'Agence Nationale des Renseignements? Aujourd'hui, ils sont devant la justice et pourtant, il n'y a pas de remise en cause de cette détention alors qu'on a de loin dépassé le cadre légal.
Écoutez, Carbone Béni et compagnie étaient détenus à l'ANR. Je pense qu'à l'époque où vous m'aviez interviewé, je vous avais dit que les services de renseignement n'avaient pas le devoir de me transmettre le dossier de Carbone Béni et compagnie. Mais ce que je demandais en tant que ministre des Droits Humains, dans mes prérogatives, je suis censée veiller sur la régularité de la détention et que j'estimais que 4 mois étaient trop pour continuer à détenir Carbone Béni et compagnie. J'avais demandé que ces derniers soient transférés devant les instances judiciaires compétentes afin qu'ils aient le droit de se défendre. Cela a été fait, donc cela ne dépend plus de moi, cela relève du ministère de la Justice.
Madame la ministre, merci.
Je vous remercie.